Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Ce dimanche, je vous propose de nous intéresser au lien du genre humain avec son environnement dans ce magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Avec notre invité, Charles Stepanoff, qui nous livre un essai stimulant, passionnant, riche, foisonnant, qui s'intitule « Attachement » au pluriel, enquête sur nos liens au-delà de l'humain. Livre dans lequel il affirme d'emblée que les humains se distinguent par les relations très singulières qu'ils établissent au-delà d'eux-mêmes avec les animaux, l'environnement, le cosmos, écrit-il. Et il ajoute « Longtemps ignoré, cette disposition à l'attachement au-delà de l'humain paraît fondamentale dans le rapport singulier que nous avons construit avec notre environnement au fil des millénaires. Nous allons en parler avec lui dans ce nouveau numéro d'idées, donc, que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio, l'appli RFI Pure Radio et votre moteur de recherche préféré. Bonjour Charles Stepanoff.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire d'anthropologie sociale. En 2021, nous avions parlé ensemble, ici même, dans ce studio, de la chasse à l'occasion de la sortie de votre livre « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». Et nous allons en quelque sorte poursuivre notre conversation avec ce nouvel livre « Attachement au pluriel ». Et grâce à vous, je ne vois plus tout à fait de la même façon les animaux et la nature, domestiques, les animaux domestiques ou pas d'ailleurs. Et ce qui m'a frappé d'emblée, c'est pour ça que je voulais mettre en avant cette citation, c'est que vous dites que cet attachement a été longtemps ignoré. Ça peut paraître curieux.
Et c'est vrai que quand les grands théoriciens, les philosophes, les sociologues nous parlent de l'humain et se demandent qu'est-ce qui singularise l'humain par rapport aux autres espèces animales, on a mis l'accent beaucoup, et ça reste une évidence, sur le langage d'abord, c'est-à-dire nos façons, nos capacités à communiquer entre nous, sur la station debout qui nous distingue physiquement, anatomiquement, d'autres espèces de primates, sur la socialité intra-humaine, sur le fait que nous ayons des lois, le tabou de l'inceste chez les Lévi-Strauss, des conventions, donc des règles d'échange entre les groupes humains. Donc on a mis beaucoup l'accent sur la socialité interne à l'espèce humaine. Mais si on prend un peu de recul écologique, on s'aperçoit que l'humain se distingue aussi par sa très riche socialité au-delà des limites de sa propre espèce. Je prends l'exemple dans le livre des adoptions d'animaux qui peuvent être la source de liens extrêmement riches, puisque ce sont des petits chiens à travers le monde, mais aussi des pécaris en Amazonie, des kangourous, des opossums en Australie, des oursons, des renards ou des louveteaux à travers l'Asie du Nord et l'Amérique du Nord. Et ces animaux, ils ont une place importante dans la famille. Ils sont appelés « mon fils, ma fille ». Ils peuvent être allaités par les femmes, ils peuvent recevoir des funérailles. Donc les humains ont capacité à créer des liens de filiation, de la socialité, des rapports affectifs profonds au-delà des limites de leur espèce. Hein, on peut dire que l'homme humain est une sorte de pot de colle, il s'attache à tout ce qui passe autour. Je vais parler des mammifères, mais on voit des poissons apprivoisés, des insectes même, des batraciens. Les exemples sont innombrables. Et on pourrait aussi bien parler de nos liens avec les végétaux, avec des fleurs,
les plantes
qui suscitent des émotions, les roses, les jardins, évidemment, les arbres et des lieux, des paysages auxquels nous sommes attachés.
Alors ces liens sont universels, mais ils varient quand même selon les sociétés.
Voilà. Il y a une, on peut dire, une espèce de pulsion humaine à l'attachement, mais qui va donner lieu à des constructions culturelles extrêmement variées. On le voit bien au fait que chez nous, par exemple, l'apprivoisement des animaux sauvages est interdit. il faut avoir une autorisation préfectorale. Alors que chez les chasseurs-cueilleurs, eh bien, au contraire, c'est la norme, ils font partie de la famille, donc les choses permises ici, ailleurs, sont interdites. Évidemment, l'allaitement des animaux est chez nous est perçu comme quelque chose d'extrêmement choquant, d'anormal, de pathologique, alors que c'est extrêmement courant dans de très nombreuses sociétés à travers le monde. Donc une grande diversité, et ça donne naissance aussi à des formes de rapport au monde et même d'organisation sociale particulière. C'est-à-dire que cette question des attachements, c'est pas quelque chose de mignon, juste une histoire de petit chat. Il me semble, à l'issue d'une comparaison anthropologique vaste à travers le monde, que c'est crucial pour comprendre l'évolution des rapports des sociétés humaines à leur environnement, mais aussi l'évolution des organisations sociales elles-mêmes.
Et il y a un mot-clé pour comprendre votre étude, votre essai, c'est le mot « domestication ». Vous écrivez « il faut repenser complètement la notion de domestication ».
Voilà. Alors, c'est une notion à la fois centrale dans notre conception du monde et très mystérieuse et finalement assez indéfinie. Elle est centrale parce que dans nos conceptions mythiques, on peut dire de l'origine de l'humanité moderne, elle fait figure de tournant. On considère dans les récits habituels académiques que les humains étaient d'abord chasseurs-cueilleurs, vivaient en harmonie avec leur milieu environnant, ils faisaient partie de la nature et vivaient dans des relations de réciprocité avec les animaux et les plantes qui les environnaient, jusqu'au moment où ils ont entrepris au Proche-Orient, à l'époque du Néolithique, de changer d'attitude et de domestiquer, dit-on, ces plantes et ces animaux. Ils ont adopté une attitude agressive, nous dit Very Gordon Child, le préhistorien australien qui a introduit la notion de révolution néolithique, une révolution qui serait donc à la fois mentale et économique et qui a mis l'humanité sur des rails en nous lançant vers la domination. On fait une équivalence entre domestication et domination habituellement. Domination de l'humain sur la nature, mais aussi domination de certains humains sur d'autres humains. C'est l'avènement des pouvoirs politiques, de l'État, de la tyrannie, de l'urbanisme, de l'écriture. Voilà, en fait, découler tout ça, finalement, de la domestication. Donc, c'est quelque chose de considérable comme événement. C'est dans nos philosophies politiques, et on peut remonter ça à Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui fait de l'avènement de l'agriculture et de la métallurgie l'origine des inégalités entre les hommes. Alors, ce qui est troublant, ce qui a été pour moi vraiment une remise en cause, c'est de s'apercevoir que cette notion de domestication, elle est tout à fait récente. En fait, on voit le terme domestication se répandre en France au milieu du 19e siècle. Ça vient d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, à partir d'idées qui sont mises en place chez Buffon au cours du 18e siècle. Mais auparavant, les sociétés de petits paysans, de petits pasteurs, n'avaient pas l'idée qu'ils avaient domestiqué les plantes et les animaux. Donc, ils n'avaient pas du tout l'idée d'une révolution et d'un avènement d'une puissance de l'homme, de domination sur la nature. Ces idées leur étaient étrangères. Donc, ils vivaient avec des plantes et des animaux domestiqués sans considérer qu'ils les dominaient et qu'ils en étaient les créateurs.
Sans le savoir.
Sans le savoir, si on considère que c'est vrai.
Sans en avoir conscience, oui.
Voilà,
oui.
Parce qu'ils ils avaient d'autres conceptions. Les plantes et les animaux pouvaient être, dans l'Occident chrétien, créés par Dieu. Hein. Animaux sauvages ou animaux domestiques. Vous avez des représentations de la création d'Adam et Ève au paradis. Vous avez le petit chien bichon, le lévrier, tout ça, la chèvre, le mouton, la vache, avec des types complètement domestiques. Donc on ne considérait pas du tout qu'ils avaient été domestiqués par l'homme, puisqu'ils étaient apparus sur Terre déjà à l'état domestique. Donc ce que devait éprouver l'humain par rapport à ces êtres, c'était de la reconnaissance envers Dieu ou envers les dieux, puisque ce sont des conceptions extrêmement répandues. Ou bien il y a aussi l'idée que ce sont les plantes et les animaux eux-mêmes qui sont venus vers les humains. Donc dans tous ces récits, on n'a pas nécessairement une domination de l'humain, on a une coparticipation avec des divinités, des esprits, et puis l'agentivité, la capacité d'agir et de choisir des plantes et des animaux eux-mêmes qui auraient décidé, parce qu'ils y trouvaient intérêt, de vivre aux côtés des humains.
Parce que la religion, Charles Stepanov, joue un rôle déterminant dans cette relation avec la nature et les animaux.
Alors c'est un trait humain effectivement particulier, ce comportement religieux, qui pour les anthropologues d'une part présente une immense diversité, mais aussi certainement des traits communs, une forme de rapport à l'invisible, c'est-à-dire la présomption que nos relations avec le monde ne sont pas cantonnées à ce que nous en voyons, ce que nous en apercevons, nous en saisissons par les sens, puisqu'il existe des dimensions qui nous échappent, que nous ne maîtrisons pas. C'est une réalité vécue évidemment par les sociétés humaines, que la vie est finie, que nous sommes soumis à la maladie, à la mort, à la famine quelquefois. Donc autant d'événements qui ne dépendent pas de notre volonté. Et les religions, bien souvent, cherchent à négocier ces rapports avec des puissances, des subjectivités que nous ne maîtrisons pas. En ce qui concerne les rapports avec les plantes et les animaux domestiques, on retrouve très souvent cette idée que non, l'humain ne les a pas créés, il n'en est pas le maître absolu, il a des devoirs envers eux parce qu'il les a reçus. C'est plutôt quelque chose qu'on a reçu, envers quoi on doit être responsable et reconnaissant. Donc ça implique des célébrations religieuses à travers le monde, dans toutes les sociétés paysannes et agropastorales, des fêtes saisonnières qui vont être des moments de reconnaissance après les moissons, avec des grands festins, des sacrifices, des offrandes, du partage avec les dieux qui ont offert cette vitalité. Et puis au moment des semailles, au contraire, là, une demande d'obtention de fertilité, de fécondité, qui dans beaucoup de sociétés est conçue sur le plan du don contre don. On va demander d'obtenir cette nourriture, cette fécondité des plantes et des animaux dont nous, les humains, ne sommes pas les maîtres. Et en échange, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner? Alors, il peut y avoir le sacrifice d'animaux, il peut y avoir des offrandes, il peut y avoir des sacrifices humains. Dans beaucoup de sociétés pastorales, et on le voit au néolithique, dans les fouilles, les gens ont une telle conscience de leur endettement face à ces puissances qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils vont jusqu'à sacrifier des humains pour appuyer leurs demandes ou en remerciement pour la fécondité de la terre.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes cette semaine en compagnie de Charles Stepanov et nous conversons avec lui à partir de son livre, son nouveau livre qui s'intitule « Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain ». Charles Stepanov, cet attachement n'est plus tout à fait le même depuis que la population, en tout cas en Occident, vit essentiellement dans les villes, d'évidence.
Alors c'est clair que je pense qu'il y a une forme de rupture dans beaucoup de sociétés humaines, à partir du moment où on voit s'établir un mode de vie urbain. Parce que l'urbanisme crée vraiment un rapport au milieu vivant tout à fait singulier, singulier même dans l'histoire de la vie, puisque un organisme vivant se définit par sa dépendance, ses interactions avec son milieu environnant. Il a besoin pour son métabolisme d'oxygène, d'eau, d'éléments organiques pour produire ses propres cellules. Donc cette interface avec le milieu vivant est tout à fait vitale. Or, dans le monde urbain, nous avons une dissociation entre l'espace habité, l'habitat de l'organisme vivant, en l'occurrence l'humain, et puis ses sources d'approvisionnement qui peuvent être très éloignées et dans lesquelles il ne se rend même pas, puisque l'approvisionnement va se faire par le commerce. Donc dans les villes qui apparaissent au Proche-Orient, à l'âge du bronze, il y a 5000 ans, nous voyons une répartition du travail et de l'espace entre la zone urbaine habitée qui concentre le pouvoir politique et le pouvoir religieux autour de temples dans les cités sumériennes, qui contrôle une partie de la production de laine et donc qui vivent sur un système de domination économique à l'égard d'arrière-pays dans lesquels l'agriculture se transforme. Il faut désormais nourrir une population urbaine, des marchés urbains. Donc il faut plus de production. Donc on va avoir plus de labour, on va avoir des formes de culture des céréales différentes avec moins de diversité. On va être plus sur la production de blé parce que c'est une denrée commerciale qui peut circuler à travers de vastes réseaux. On va avoir plus d'élevage de moutons, une spécialisation parce que le mouton permet de produire de la laine qui va être traitée dans les temples sumériens qui sont de véritables temples-usines pour produire une marchandise sous forme de textile précieux.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans notre période contemporaine, Charles Stepanov, au cœur des villes, prenons Paris, par exemple, il y a cette recherche d'attachement parce que on veut avoir des plantes, je ne parle pas des animaux domestiques dont vous parliez tout à l'heure. On sent que cet attachement est toujours là et cherche à être assouvi, en quelque sorte.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense que c'est un trait profond de notre humanité, ce désir d'attachement, de lien au-delà de notre espèce. C'est une nécessité. On voit que dans une des villes les plus urbanisées de Paris, hein, avec le moins d'espace vert, eh bien, les gens tendent
avec une forte densité, oui.
Voilà, oui, et pas beaucoup de parcs, hein, par rapport à Berlin, par exemple, ou Londres, ou Moscou. Eh bien, les gens parviennent à reconstruire, malgré tout, des liens sous une forme un peu chétive, mais pensons aux pots de géranium qui sont suspendus aux fenêtres, par exemple, aux petites plantes vertes qu'on peut trouver dans les bureaux, aux animaux de compagnie, alors un petit peu rétrécis, les chiens, évidemment, puisqu'il faut pouvoir les confiner dans des appartements, des animaux qui sont complètement adaptés, finalement, à ce mode de vie, à ce support purement affectif. Donc, nous voyons des échappées, comme ça, des façons de surmonter cette artificialisation extrême des écosystèmes. Donc, l'attachement est toujours là, mais sous des formes extrêmement variables. Et ce qui est de propre au monde de vie urbain moderne, c'est le prolongement de ce que j'évoquais tout à l'heure des cités sumériennes, c'est une spécialisation. Donc, nos rapports aux plantes et aux animaux en ville, quand on a un mode de vie en appartement, ils vont être spécialisés sur ce qui est l'empathie, l'intersubjectif, l'affectif. Alors, c'est pas qu'on ne se nourrisse plus de viande ou de végétaux ou qu'on n'ait plus besoin de combustible, on ne vit pas comme des anges, mais nos sources d'approvisionnement ont été déléguées, elles ont été éloignées dans des régions qui sont au contraire beaucoup moins empathiques et spécialisées dans une exploitation souvent productiviste de la nature.
Alors Charles Stepanov, il faut rappeler que vous êtes anthropologue, donc vos travaux sont à la fois fondés sur des recherches de terrain et sur la littérature dans le domaine qui est le vôtre. Et vous, votre champ de recherche concerne la Sibérie. Vous avez beaucoup travaillé avec une société qui s'appelle les Taujous. Et c'est à partir des Taujous que vous avez commencé à réfléchir à cet attachement.
C'est ça, oui. Alors, j'ai fait mes études doctorales et postdoctorales en Sibérie du Sud, en République de Touva, et donc une population turcophone. Et une partie des Touvas, c'est les Taujous, c'est un sous-groupe qui vivent dans la taïga, qui ont un mode de vie essentiellement de chasse-cueillette, c'est-à-dire que l'approvisionnement traditionnel est fondé sur l'exploitation de ressources sauvages, les poissons, le gibier, les plantes comestibles, les baies qu'on peut ramasser, de nombreuses espèces, une cinquantaine d'espèces sauvages qui sont utilisées pour la vie quotidienne. Ils ont par ailleurs des animaux domestiques, le chien, qui est présent dans toutes les populations humaines aujourd'hui, mais aussi le renne. Le renne, donc un cervidé qui est domestiqué dans cette région, en Asie du Nord, et qui est utilisé chez les Lapons, hein, les Samis également en Europe septentrionale, et qui sert non pas de source de nourriture, pas de source de viande, il sert essentiellement pour le transport et comme animal de monte. Donc les rennes sont montées avec une selle, comme une selle de cheval, ils servent pour le transport à travers la forêt pour aller à la chasse aux rennes sauvages. Puis les femelles peuvent être utilisées également pour la traite, donc il y a une production de lait pendant une courte période, l'été, période de lactation. Donc société très intéressante dans ses rapports à la nature, aux confins entre le domestique et le sauvage, un peu difficile à classer déjà pour les grandes catégories des
Classique,
anthropologues auxquelles
hein,
j'étais habitué. Est-ce qu'ils sont chasseurs-cueilleurs? Oui, puisque l'essentiel de la nourriture vient de source sauvage, mais ils ont quand même un animal domestique important, ils ont des troupeaux, ils ont des savoir-faire d'éleveurs, donc est-ce qu'ils sont quand même chez les éleveurs? Hein, dans les grandes dichotomies du 19e siècle, on a l'économie de chasse-cueillette et puis l'économie de production chez Marx, Engels, Gordon Childe. Donc là, il est difficile de les placer exactement. Et puis, leurs conceptions de la domestication ne sont pas du tout les mêmes que chez nous.
Il y a un véritable dialogue entre les humains et les rennes, le renne qui
Voilà, c'est ça en
un
fait
échange en fait, une communication.
Oui, le mode de vie, il est fondé sur un partage des compétences
Oui.
et de l'intelligence entre les troupeaux et les éleveurs, puisqu'ils n'ont pas surveillé les animaux déjà, il n'y a pas d'enclos, on les laisse partir le matin dans la forêt, et là c'est des meneurs, des meneuses en fait, souvent des grands-mères qui ont des cloches et qui vont emmener des petits groupes à travers la forêt et qui reviennent de temps en temps, pas tous les jours. Et puis lors des nomadisations, quand on change de lieu de campement, eh bien, les rennes vont se rendre par eux-mêmes au campement suivant, puisqu'ils en connaissent l'emplacement.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes toujours en compagnie de Charles Stepanov. Alors venons-en à propos de cette question de l'attachement de l'homme et de la nature à une certaine ambivalence. Vous écrivez le plus vorace, le plus puissant et le plus terrible des prédateurs de la planète n'est pas le lion, le loup ou le requin. Donc on sait qui il est, c'est l'humain. Mais d'un autre côté, vous écrivez aussi: on n'a pas rencontré jusqu'à présent de société qui aurait un rapport au monde purement utilitaire et métabolique aux choses, pas plus qu'on a décrit de société dont les membres seraient capables de vivre de relations purement sociales, affectives, intersubjectives avec le monde. Donc, il y a forcément ce besoin d'attachement de la part de l'humain, même s'il chasse. Même s'ils tuent des animaux, même s'ils déforestent, par exemple.
Voilà, ce sont des attaches qui sont profondément doubles, ambiguës, une espèce de tiraillement dans le rapport au monde des humains, entre cet aspect d'exploitation, qui est totalement évident, qui n'échappe à personne, qui fait que l'humain, oui, est le plus grand prédateur actuellement sur Terre et depuis longtemps, le plus grand modificateur des environnements. Mais aussi le fait, comme on l'évoquait au début de notre discussion, le fait que c'est l'espèce qui adopte, qui prend le soin du plus grand nombre d'animaux et de végétaux autour de soi. Donc, des records des deux côtés, une ambiguïté intrinsèque de notre rapport au monde, c'est ce qu'on peut résumer dans la notion de prédateur empathique.
J'allais vous poser la question, vous utilisez souvent ce terme prédateur empathique, ce qui peut paraître paradoxal.
Oui, c'est un paradoxe de la condition humaine qui est nécessaire de prendre en compte quand on examine, quand on compare les rapports au monde des sociétés humaines. En fait, aucune société peut avoir un rapport homogène, simple au monde. On schématise et on caricature quand on dit les modernes ont un rapport purement d'exploitation, purement matériel à leur environnement, et puis des sociétés primitive aurait au contraire un rapport empathique, de communication avec le chamanisme. C'est juste parce qu'on sélectionne en fait dans chacune de ces sociétés ce qui va correspondre effectivement à ce schéma un peu caricatural. En réalité, dans l'Occident moderne, vous avez aussi, on le citait, le soin avec les animaux de compagnie, la protection des animaux sauvages, les réserves naturelles, les lâchers d'animaux, des attitudes, des refuges, des attitudes à la fois de destruction et de soin. Et dans les petites sociétés traditionnelles également. Vous avez évidemment des attitudes de destruction avec la chasse-cueillette, avec l'horticulture itinérante sur brûlis qui implique à travers de très nombreuses régions du monde, en Asie du Sud, en Amérique du Sud, en Europe également, ça existait, en Afrique, la mise à feu de régions de savane ou de forêt, la destruction donc d'écosystèmes pour produire de la nourriture, pour implanter des jardins qui vont ensuite se déplacer. Donc dans toutes ces sociétés, nous avons cette ambiguïté, c'est d'un côté la prédation et de l'autre l'empathie. Et en fait, on ne peut pas comprendre l'une sans l'autre. C'est ce que j'ai essayé de montrer, que la singularité de la prédation humaine, nous ne sommes pas comme des lions avec des belles griffes, avec des canines magnifiques. Même nous sommes moins bien pourvus que les chimpanzés. Ils ont de meilleures canines que nous, ils sont beaucoup plus sportifs. Donc ce n'est pas la puissance physique, l'équipement de prédateurs qui fait que nous sommes devenus les plus gros prédateurs du monde. C'est autre chose. Et finalement, c'est paradoxalement dans notre empathie même, dans notre capacité à comprendre les autres espèces, à du coup les piéger. La ruse, c'est fondamental, la ruse dans la prédation humaine chez les chasseurs-cueilleurs, par le piégeage, la poursuite, les feintes, les leurres. Et puis la capacité à domestiquer ces animaux, donc c'est-à-dire à les intégrer, à créer des liens avec eux pour nous en nourrir. Qu'il s'agisse des plantes du maraîchage ou de l'élevage de bétail pour nous nourrir.
Charles Stepanov, dans ce livre qui est très riche, très, très, enfin vraiment passionnant, c'est un voyage intellectuel et géographique aussi, vous soulignez aussi l'importance de l'anthropomorphisme pour aborder cette question des attachements. Et vous parlez par exemple de la relation que chacun a connue, connaît et connaîtra, la relation avec les bébés. Vous pouvez nous en
Oui.
dire plus là-dessus?
Alors,
Intrigué.
on s'interroge comme anthropologue dans une perspective d'évolution, comment se fait-il que Homo sapiens ait cette tendance à adopter des êtres tellement différents de lui, au point qu'on puisse l'appeler, je propose ça, Homo adoptans, en plus de Homo sapiens.
Ouais.
Mais si on y réfléchit, nos bébés eux-mêmes sont des êtres assez différents de nous, adultes. Le soin que chaque adulte va accorder à son bébé, à ses bébés, qui est évidemment indispensable pour la perpétuation de notre espèce, ça implique de franchir un espèce de saut, une ouverture vers une sorte d'au-delà. Parce que
Notamment sur le plan du langage.
oui, parce que les définitions de l'humain mettent l'accent, comme on le disait tout à l'heure, sur le langage, sur la bipédie, sur la capacité à adopter des conventions. Eh bien, nous ne retrouvons aucune d'elles chez les bébés. Les bébés ne parlent pas. Les bébés ne suivent pas le regard, n'ont pas le sens des conventions, les bébés n'ont pas la bipédie, ils ne savent pas marcher. Donc au fond, ils ne correspondent pas à la définition d'Homo sapiens. Donc il nous faut une ouverture à l'altérité pour entretenir des interactions avec ces êtres-là. Et c'est ce que montre l'étude sur la communication avec les bébés. On peut leur parler, mais dans beaucoup de sociétés, on ne se contente pas de leur parler. En fait, y compris chez nous, on ne leur parle pas comme on parle à un adulte, évidemment, puisqu'on sait qu'en fait, ils ne comprennent pas du tout. Donc, ils ne maîtrisent pas la syntaxe ni le lexique de notre langue. En revanche, nous pouvons communiquer avec les bébés par les émotions. Et c'est ce qu'on appelle la communication paralinguistique, tout ce qui est dans la langue et au-delà de la langue. C'est le ton, les émotions, tout ce qui chante dans notre parole, tout ce qui relève de la musique. Donc il y a les berceuses qui sont proprement de la musique, effectivement, et qui sont universelles. Et puis il y a aussi la façon de s'adresser au bébé, hein, qui va avoir une voix plus aiguë, qui va être plus marquée sur le plan des émotions. Donc ça veut dire qu'on a une forme de trait universel ici, on a un code spécialement dédié à la communication avec les bébés.
Tout comme il y a un code de communication avec les animaux.
Alors voilà, donc cette ouverture que nous avons à l'altérité à travers les bébés, eh bien, elle a été une voie de passage, hein, en fait, c'est une brèche ouverte dans notre socialité, dans laquelle ont pu s'engouffrer d'autres espèces. Comme nous avons l'habitude de prendre soin d'êtres assez différents de nous, avec lesquels on ne peut pas parler en réalité, qui ne nous ressemblent pas trop, eh bien, les petits chats, les petits chiens en ont profité pour s'introduire et bénéficier de nos soins. C'est une sorte de détournement, vous voyez, de notre disposition à soigner des êtres différents de nous, dans lesquels se sont introduits donc, de très nombreuses espèces. Et on a pu montrer que... ils ont développé en fait une surcapacité à nous émouvoir dans leur évolution en contexte de vie avec les humains. Ce qui distingue le chien du loup, entre autres, c'est que le chien est capable de suivre nos regards, d'échanger des regards et de développer des hormones, l'ocytocine, hormones de l'attachement, en même temps que l'humain au moment de cet échange de regards. Alors qu'on n'observe pas ça chez le loup. Et c'est quelque chose d'inné chez le chien. Ça veut dire qu'à un moment au cours du processus de domestication, les chiens, certaines populations de canidés entre chiens et loups, ont développé des compétences cognitives et affectives que n'avaient pas leurs ancêtres.
Parce que le chien a tout de suite été adopté, domestiqué.
Tout de suite, on ne sait pas exactement quand c'est, mais entre 15 000 et 20 000 ans avant le présent, il y a eu sûrement plusieurs tentatives. En réalité, ça a été assez complexe. Il y a eu plusieurs tentatives, peut-être plusieurs proto-domestications. Et puis, il y a des lignées chez lesquelles ça a très bien marché. Pourquoi ? Probablement parce qu'ils ont été capables de répondre à notre besoin d'affect eux-mêmes en développant de l'affect envers nous et en développant une capacité à échanger des regards. Donc ça, vous voyez que ça modifie pas mal la façon dont on doit concevoir la domestication. C'est plus juste une histoire de domination, de prise de contrôle de l'humain sur l'animal. C'est aussi une histoire de capacité de réciprocité dans un échange affectif.
Patitam patitam param param paritai paskanita patitai kata kata katitai paskanita patitai patitam patitam param param paritai paskanita patitai kata kata katitai paskanita patitai patitam patitam param param paritai paskanita patitai kata kata katitai paskanita patitai ai mabitai tu suci kuikin kunangka sayai taya janai kiti puriri manjinai kiti cha pa 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 ti ti pa cha wicita pamusyam piritawan tantatawa.
Alors vous dites, vous écrivez dans cet essai fouillé, je le répète, après s'être passé des bébés aux animaux, il nous faut maintenant examiner comment les humains s'y prennent pour dialoguer avec l'invisible, c'est tout autre chose.
Voilà, l'invisible. C'est tout autre chose, les esprits, les dieux. Et en même temps, il y a quelques points communs, je crois, qui sont assez fondamentaux. Si on s'intéresse à la communication...
D'où les rituels.
Voilà, le rituel, c'est les moments, les performances où les humains vont tenter de communiquer avec des esprits, des divinités, des ancêtres, des âmes.
Et vous, l'anthropologue, vous avez vu à l'œuvre cette communication
oui,
avec l'invisible lors de rituels.
Tout à fait, ça se passe par de l'enquête de terrain. Hein, comme tout ethnologue, on va essayer d'être accueilli dans une société, essayer d'apprendre, d'être...
Par exemple,
Donc moi, c'était chez les Touvas et les Taujou. Et donc, je n'ai pas uniquement étudié l'élevage qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi les pratiques rituelles. Et donc, en l'occurrence, chez eux, les pratiques chamaniques. Donc, ça veut dire de passer du temps, d'essayer de sympathiser avec des chamans, de se faire accepter. Souvent, c'est des gens ouverts, drôles, mais qui sont quand même assez caractériels. Ce n'est pas toujours facile, imprévisible. Et donc, participer au rituel, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre quelles sont les techniques, c'est vraiment technique, utilisées par les gens pour parler à la montagne qui est en face d'eux et dont ils considèrent que leur vie dépend. Parce que le climat, parce que l'eau, parce que les pâturages, le bétail, tout ça dépend effectivement de la montagne. Donc ils vont s'adresser à elle. Mais on ne s'adresse pas à une montagne comme on discute entre nous actuellement.
Non, bien sûr.
Il faut s'adapter. Donc il y a des adaptations, il y a de l'innovation communicationnelle. Donc il va y avoir, ça va être multisensoriel déjà. Il y a des fumigations, on fait brûler du genévrier, une plante odorante. On fait des libations, c'est-à-dire qu'on projette vers la montagne du lait, du thé. On peut jeter dans le feu de la nourriture, c'est gustatif aussi. On ne parle pas comme on parle habituellement, donc on chante. On a des rimes à travers les paroles. Ce sont des paroles très poétiques, très charnelles, finalement, imagées. Donc on mobilise une communication à travers tous les sens, l'olfactif, auditif, tactile, gustatif, pour essayer d'établir un contact. Il y a une adaptation. Et ça, finalement, c'est des traits communs avec la communication avec les bébés, qui mobilise aussi beaucoup le tactile, l'olfactif, le musical, hein, comme on le vient de dire, une musicalité de la communication humaine qui se révèle dans ces échanges avec l'altérité, soit les bébés, soit les esprits, mais aussi, on peut mettre le parallèle avec les animaux, la communication des éleveurs avec leurs animaux. Évidemment, on ne peut pas leur parler directement comme on le fait entre humains. Avec les animaux, on ne peut pas leur dire « Écoute, mon cher, tu vas rentrer à l'étable, s'il te plaît. » Donc, c'est plutôt des huchements, ce qu'on appelle des huchements, des cris, des formes d'expression musicale, des sifflements, qui constituent de véritables codes qui ont été étudiés par des ethnologues qui en ont fait de véritables dictionnaires. En Mongolie, une collègue australienne, Natasha Fine, qui a montré les taux de réponse correcte des animaux aux appels des éleveurs en Mongolie, qui sont très élevés, ce qui veut dire que ces codes sont efficaces, sont connus, ce sont de véritables conventions établies entre les humains et les animaux.
What? Et c'est ce que vous appelez, de façon générale, c'est cette communication, ces échanges, Charles Stepanov, c'est ce que vous appelez une polyglossie ontologique.
Voilà,
terme savant, s'il en est.
Voilà, si on peut mettre en parallèle notre communication avec les bébés, avec ses aspects assez singuliers, étranges, la communication avec les animaux, non moins étrange, avec beaucoup d'innovation, des chants, des cris, des sifflements, et puis la communication avec les dieux, encore plus extraordinaire, puisqu'elle implique des procédures extrêmement complexes, de libation, de sacrifice qu'on évoquait, eh bien, on peut considérer que réduire la communication humaine au langage, ça serait tout à fait insuffisant et insatisfaisant. Le langage, oui, est propre de l'homme, est très important, mais la communication humaine avec le monde, elle va bien au-delà. Elle ouvre des voies, des canaux très riche. Donc nous sommes tous polyglottes. Le simple fait de parler à un bébé, même dans sa propre langue, en fait, nous changeons de registre, nous changeons de mode d'utilisation de nos cordes vocales. Donc à l'intérieur même de l'espèce humaine, il y a de la polyglossie, et d'autant plus pour communiquer avec les autres espèces. Donc polyglossie ontologique, puisque ça concerne en fait la façon dont se constituent nos mondes. C'est puisque ça inclut les esprits, les animaux, les bébés, qui sont supports d'ancêtres, bien souvent, les bébés, puisqu'ils sont vus comme des réincarnations, les ancêtres, dans nos nombreuses sociétés. Voilà, c'est ça que j'essaie de mettre derrière cette notion de polyglossie ontologique.
More.
suite de ce numéro d'idées en compagnie de Charles Stepanov. Charles Stepanov, vous qui êtes anthropologue, vous êtes aussi intéressé par la politique et les aspects politiques des modes de vie des sociétés. Et vous interrogez, en y apportant d'ailleurs une réponse, comment les attachements au milieu vivant transforment-ils l'organisation sociale ? Il y a une relation entre cet attachement et la politique entendue au sens large.
Voilà, c'est une des grandes thèses.
Ça, c'est un des grands moments forts de votre livre.
Oui, dans ce livre, effectivement, j'essaye d'aborder ce qui est une vieille question. Quel est le rapport entre les écologies et les sociologies des sociétés ? C'est-à-dire, quelle est la corrélation entre la façon dont elles traitent leur environnement et la façon dont elles traitent les individus dont elles sont constituées ? On suppose depuis longtemps qu'il y a des rapports, on l'évoquait tout à l'heure avec la question de la domestication comme engrenage qui fait advenir les sociétés hiérarchisées. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, ça n'est pas satisfaisant comme interprétation. C'est trop mécaniste puisque nous voyons chez des chasseurs-cueilleurs des sociétés très hiérarchisées avec de l'esclavage jusqu'à 40% de la population chez les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord qui peuvent être esclaves avec des aristocraties, avec quelquefois même des royautés divines. Et inversement, dans des sociétés qui cultivent des céréales, du maïs ou du blé ou de l'orge, nous voyons des groupes qui peuvent être tout à fait égalitaires, avec aussi évidemment des royautés, des aristocraties. Donc une gamme extrêmement large d'organisation sociale dans les divers modes de production. Alors, comment aller plus loin ? Comment proposer autre chose ? L'idée, c'est de partir des attachements, de se dire que c'est pas tellement qu'est-ce qu'on cultive ou qu'est-ce qu'on élève comme bestiole qui est important, mais comment on organise ces attachements et comment on organise des détachements également. Alors, une première voie, une première dynamique de création d'hierarchie, ça va être de distinguer dans une société humaine entre des gens très attachés, qui ont des rapports très forts au monde avec les esprits, des âmes, des montagnes et des sangliers, par exemple, qui vont être des prêtres, des aristocrates. Et puis le reste du monde, j'évoquais tout à l'heure les esclaves, dans les sociétés des Amérindiens de la côte nord-ouest, c'est le cas. Ces esclaves, eh bien, ils viennent d'autres ethnies, ils ont été pris comme prisonniers lors d'expéditions militaires, et ils ne participent pas au rituel, ou alors juste comme victimes sacrificielles. Mais ils ne peuvent pas avoir ce contact affectif avec le monde, avec la terre, avec les esprits. Donc là, vous avez une distinction au sein de la société entre des gens hyper attachés, les nobles, et puis des gens hyper détachés, qui ont un rapport au monde purement matériel, et qui, comme esclaves, font toutes les basses tâches, d'aller couper du bois, d'aller équarrir le gibier, ou tanner les cuirs. C'est une voie de création, de dissociation, de détachement par la hiérarchie, la création d'individus détachés. Et puis, il y a une deuxième dynamique différente qu'on trouve aussi chez des sociétés de chasseurs-cueilleurs, et d'ailleurs en Amérique du Nord, un peu plus au sud, au niveau de la Californie, chez les Indiens de Californie, c'est la production d'objets détachés. Qu'est-ce que c'est des objets détachés ? En l'occurrence, ce sont des monnaies, ce qu'on appelle des monnaies primitives, des coquillages qui vont servir dans les échanges. Ça peut être des coquillages, mais ça peut être aussi des fourrures précieuses, ça peut être des plumes d'oiseaux précieux, des plumes de belles couleurs à Hawaï, ça a été le cas par exemple. Donc les monnaies primitives, elles permettent, elles sont basées sur le fait d'avoir des objets détachés, donc qui n'ont pas de lien propre avec des individus, ce qui va permettre de les faire circuler à travers différents groupes. Ça crée de l'intégration horizontale entre les groupes. Et quelquefois, ces deux dynamiques, création d'humains détachés et création d'objets détachés, peuvent se trouver dans une même société. Souvent, elles excluent, parce que d'un côté, on a un idéal, création d'humains détachés, c'est un idéal de noblesse, de différence intrinsèque entre les humains, alors que l'autre modèle, basé sur la monnaie, c'est ce qu'on peut appeler de la plutocratie, la différenciation entre les humains, elle se fait par la richesse, l'accumulation. C'est un peu le contraste qu'on connaît chez nous entre éthique aristocratique et éthique bourgeoise qui se sont confrontées chez nous, évidemment, lors de la Révolution française. Mais ces éthiques souvent se confrontent, mais peuvent se recouvrir en réalité, bien souvent, avec des sociétés qui produisent des hiérarchies extrêmement puissantes, des royautés divines, avec au sommet un roi qui prétend être descendant des dieux, et qui vont avoir soumis à eux des bureaucraties complexes, avec des chefs, des sous-chefs dans différentes administrations, avec différentes régions, sous-régions, préfectures, etc., qui permettent de contrôler un vaste territoire. Ce système hiérarchique, il permet de mobiliser la main-d'œuvre de ces différentes régions pour cultiver des céréales ou cultiver des ignames ou élever des porcs et produire ainsi des objets détachés qui vont circuler. Donc ça implique de créer des réseaux étalés à travers ce vaste territoire dans lesquels on va pouvoir collecter la production des populations locales et les amener vers le centre, vers le pouvoir central. Là, cette conjonction de la hiérarchie et de la production d'objets détachés, elle crée un pouvoir extrêmement fort. Elle crée des espèces d'emballements de puissance parce que plus le pouvoir est hiérarchisé, plus il peut mobiliser la main-d'œuvre, plus il peut construire des monuments, entretenir une bureaucratie forte. Et donc ça s'emballe, ça va de plus en plus fort. C'est un peu le processus d'émergence des États. Dans beaucoup de régions, les États se développent de cette manière par cette conjonction de rapports remodelés des attachements au monde.
Et vous écrivez, ce sera ma dernière question, ma dernière remarque, Charles Stepanov, que la notion de puissance non humaine est plus universelle que le pouvoir politique. C'est le second qui doit donc dériver de la première et non l'inverse.
Ah oui, alors voilà, parce que c'est vrai que dans la sociologie héritée d'Émile Durkheim, on a tendance à regarder les cultes, les religions comme des projections des rapports entre les humains, se dire que Dieu le Père, c'est un peu la figure du Père à la maison, c'est la figure du roi. Donc d'abord, on a eu des rois, et puis ensuite, on a projeté ça dans le ciel pour faire des divinités. Et ce que montrent des anthropologues comme Marshall Salins et d'autres, c'est qu'en réalité, des figures de puissance créatrice dont les hommes dépendent au quotidien, nous les trouvons dans toutes les sociétés, y compris chez des sociétés égalitaires. Chez les Inuits, il y a la divinité de Sedna qui est pourvoyeuse de richesses, de biens, de nourriture et dont les humains dépendent et qui doivent supplier, implorer, alors même que dans leur propre société, il n'y a pas de chef. Donc en réalité, c'est l'inverse. L'avènement des pouvoirs politiques à l'intérieur des sociétés humaines vient de la projection au sein des groupes humains de puissance que les humains reconnaissaient universellement au-delà d'eux-mêmes, dans le ciel, dans le soleil, dans la montagne, que évidemment toutes les sociétés humaines voient et dont ils constatent la puissance et dont ils se sentent dépendants.
Merci Charles Stepanov. Votre livre s'intitule « Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain ». Il est publié aux éditions La Découverte et je le recommande évidemment. Il va faire date à mon avis. Merci Charles Stepanov.
Merci beaucoup.
Il est réalisé évidemment par Vanessa Rovansky. N'hésitez pas à nous rejoindre par exemple sur l'application RFI Pure Radio. Nous vous donnons en tout cas rendez-vous dimanche prochain sur RFI à la radio pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.